Je vais vous demander d'accueillir Katia Basile, qui est juriste et sexologue. Elle va nous présenter les repères du droit français autour des sexualités des mineurs en ligne. Je n'en dis pas plus. Katia Basile, c'est à vous. Et bonjour, regardez. Vous avez une table et un micro à disposition. Alors, on prendra, après cette intervention, évidemment, des questions du public. Donc, n'hésitez pas à préparer des questions si vous en avez pour Katia Basile. C'est à vous.
Ben, du coup, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Katia Basile, j'ai basé mon parcours sur le droit et les sexualités. Je suis chargée d'enseignement en droit pénal à UT1 Capitole et aussi chargée d'enseignement dans différents DU de sexologie. Donc j'ai essayé d'allier les deux et notamment de m'interroger sur les questions des droits sexuels, des droits reproductifs et des infractions sexuelles notamment. Et je commence demain un nouveau poste à l'ODP où je serai chargée du coup d'études pour droit et participation des enfants. Donc ça fait vraiment sens pour moi d'être là aujourd'hui. Et je vais proposer de vous introduire quelques questions pour parler un peu des droits des mineurs, du numérique, et parler peut-être d'âge charnière, de nouveaux enjeux de protection autour des mineurs et du numérique. Déjà, une des premières questions, qu'est-ce que c'est le numérique? Est-ce que c'est un espace de droit particulier? Est-ce que c'est une continuité sur les droits? Et comme premier constat, on peut se dire que finalement, le numérique, c'est les mêmes droits que hors numérique. Le numérique doit jouir des mêmes droits fondamentaux, notamment des droits de vie privée, d'accès à l'information, de liberté d'expression et tous les droits dont on pourrait jouir en dehors du numérique. Il y a certains droits qui sont particuliers, peut-être le droit à l'image, à la vie privée, qui sont particulièrement représentés et dont les enjeux sont particuliers dans les espaces numériques. La deuxième question qu'on peut se poser quand il y a numérique, il y a aussi qu'est-ce que c'est les enfants? Et c'est une question auquel le droit a essayé tout au long de l'histoire de définir qu'est-ce que c'est un enfant. La définition aujourd'hui qu'on a de façon consensuelle, internationale, c'est qu'un enfant, selon la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, c'est tout humain qui est âgé de moins de 18 ans. Et c'est la seule définition qu'on a aujourd'hui en droit sur qu'est-ce que c'est un enfant. Tout au long du 19e siècle, donc, il y a eu différentes conventions internationales, des Nations Unies notamment, qui ont essayé de définir l'enfance, les enfances. Il y a eu différents travaux finalement aussi qui ont essayé de s'interroger. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'époque, le droit pénal les traitait. Il y a eu des maisons de correction, on a essayé de corriger l'enfance, de la faire rentrer dans des cadres, etc. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, il y a eu des textes qui sont venus protéger les enfants et les traiter juridiquement comme des êtres humains dotés de droits. C'est l'ordonnance de 1945 notamment qui dit qu'aujourd'hui l'éducatif doit toujours primer sur le répressif et que le code pénal de justice des mineurs de 2021 a continué du coup. Ce qu'on peut dire sur les enfants, c'est que c'est des personnes, les mineurs, qui sont particulièrement exposés aux violences. Voilà, ce qu'on voit, c'est que les chiffres nous montrent que les enfants sont très vulnérables par rapport aux violences, qu'ils y sont exposés, que ce soit en ligne et hors ligne, donc le en ligne, c'est toujours ce continuum finalement où les enfants sont quand même plus exposés encore aux violences. Donc c'est tout cet enjeu, comment respecter leur autonomie, des moments de découverte sexuelle et comprendre de nouveaux risques, notamment en ligne, auxquels ils peuvent être exposés. Bon, là il y a quelques chiffres, mais rapidement, voilà, on voit que un quart des lycéens a subi au moins une forme de cyberviolence. Les collégiens aussi sont victimes de cyberviolence et les chiffres du coup de l'INSEE. Sur les violences, 97% des jeunes déclarent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle en ligne avant 18 ans. Ça, c'est une étude de Save the Children, c'est une étude du coup internationale. Donc on voit que énormément d'enfants, si c'est la quasi-majorité, vit des formes de violence en ligne. Sur les violences sexuelles, en France, mais c'est quelque chose malheureusement international, les mineurs sont particulièrement exposés aux violences sexuelles. En France, les plaintes, il y a 132 300 plaintes qui ont été enregistrées pour l'année 2025 d'infractions sexuelles sur mineurs. On estime que, au-delà des plaintes, c'est au moins 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année et un enfant toutes les 3 minutes. Voilà, on va passer peut-être rapidement sur des chiffres. Il y a un enfant sur 10 qui a été victime d'inceste, ça c'est les chiffres de la CIVIS. Finalement, il y a très peu de fausses plaintes, donc là je vous donne des chiffres du ministère de l'Intérieur sur les plaintes. On estime que pour les viols et infractions sexuelles, c'est là où il y a le moins de fausses plaintes. On est seulement à 0,4 contre 12% de fausses plaintes pour ce que sont les infractions contre les biens notamment. Il y a très peu de plaintes pour les violences sexuelles, très peu de poursuites et très peu de condamnations. Là, il y a quelques exemples, voilà, de manière instructive que je voulais vous amener sur des jurisprudences qui sont pour moi importantes. Il y a eu l'affaire Griveaux, qui est importante dans les définitions de ce que c'est les violences sexuelles en ligne, avec une affaire de revenge porn, et c'est la première fois, du coup, que la jurisprudence a essayé de définir ce que c'était le revenge porn. Le revenge porn, c'est le fait, par exemple, de partager une photo intime de quelqu'un sans son consentement. Jusque en 2016, en fait, il n'y avait pas de loi pour le revenge porn. Ça veut dire qu'on appliquait la vie privée. On disait que voilà, il y avait une atteinte à la vie privée et les juridictions décidaient de sanctionner personne sur l'atteinte à la vie privée. En 2016, il y a un arrêt Griveaux qui dit qu'en fait, le revenge porn, ce n'est pas du tout une atteinte à la vie privée parce que ce n'est pas comme ça que c'est défini dans le droit. L'atteinte à la vie privée, c'est quand on prend dès le début une photo sans le consentement. Alors que le problème du revenge porn, c'est que la photo est partagée avec consentement, mais c'est le partage après qui n'est pas consenti. Donc le premier partage est consenti, mais pas le partage successif. Donc ce n'était pas une atteinte à la vie privée. Et on a rappelé un grand principe qui est constitutionnel, c'est qu'on ne peut pas faire d'analogie en droit pénal. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer des droits ou des articles qui ressembleraient pour sanctionner des infractions. Ça veut dire que le numérique, ça pose question, parce que c'est des choses tout à fait exceptionnelles et que s'il n'y a pas d'article qui existe, qui les définisse précisément, il doit y avoir une interprétation stricte du droit pénal et on ne peut pas appliquer d'autres droits. Et le droit met très longtemps à évoluer, donc c'est pour montrer qu'il peut y avoir des vides juridiques, en fait, des situations où on n'a pas le droit d'appliquer des lois existantes et qu'il n'en existe pas, qui calquent parfaitement à la situation. Donc ça, c'est le concept de l'égalité juridique. On ne peut pas appliquer des textes juridiques qui ne définissent pas précisément la situation. Et pour le revenge porn, ben, ça devait exister depuis très longtemps, mais c'est seulement en 2016 qu'il y a un texte qui vient le définir. Sur les responsabilités, on peut aussi se demander quelle est la responsabilité des hébergeurs. Et finalement, comment on peut punir des personnes morales et pas physiques. On sait qu'il potentiellement, il pourrait y avoir des peines d'amende et des dommages et intérêts au civil, mais c'est très compliqué finalement de trouver qu'est-ce que c'est la responsabilité des sites hébergeurs notamment. C'était un peu pour introduire qu'est-ce que c'est le numérique, qu'est-ce que c'est les enfants, et on va arriver peut-être à définir un peu une structure du droit des sexualités des mineurs en France et peut-être des âges clés autour de ces structures juridiques. Une loi qui a beaucoup changé les choses en matière de définition des infractions sexuelles et des mineurs, c'est la loi Billon de 2021 que vous devez peut-être sûrement connaître. Et pour moi, cette loi, c'est une révolution en matière pénale parce qu'en fait, jusque-là, normalement, il y a un grand principe en France, c'est qu'on est dans un système pénal inquisitoire. Contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, où c'est accusatoire. Aux États-Unis, c'est accusatoire, ça veut dire qu'on est coupable jusqu'à preuve du contraire, en gros. Et que c'est à la personne contre qui on porte plainte d'apporter toutes les preuves pour prouver qu'il n'est non coupable. En France, c'est le contraire. Ça veut dire que quand on est victime, on doit apporter la preuve qu'on est victime. C'est le grand principe du droit pénal français. Avec la loi Billon, on inverse totalement cette charge de la preuve et c'est une révolution en matière de droit pénal. Ça veut dire que jusque-là, à partir de la loi Billon, il y a une présomption de non-consentement. Les victimes n'ont plus apporté aucune preuve qu'elles le sont parce qu'elles sont présumées victimes jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est une réelle inversion de la charge pénale de la preuve. Rapidement, enfin, en droit pénal français, il y a une non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Ça veut dire que les lois pénales plus sévères s'appliquent que pour le futur. Donc la loi Billon s'applique que aux infractions intervenues après son entrée en vigueur 2021. Ce que dit cette loi, c'est qu'à partir d'avril 2021, toutes les mineurs et tous les mineurs de moins de 15 ans, quand ils sont victimes d'une personne qui a 5 ans de plus, sont présumés victimes. Et c'est à l'auteur d'apporter la preuve qu'il n'est pas auteur. Et finalement, la seule preuve qu'il pourra apporter, ça serait une erreur sur l'âge, ce qui peut être difficile à prouver. Pour l'inceste, cet âge, il est de 18 ans. En dessous de 18 ans, les victimes d'inceste sont présumées victimes. Ça vient clarifier un peu la notion de majorité sexuelle, en fait, qui n'a jamais vraiment existé. Ce qu'il y avait, c'était une aggravation des peines pour les mineurs de moins de 15 ans. Et aujourd'hui, on a une réelle présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Donc voilà, cette loi, elle vient renforcer la protection des mineurs pour les crimes, les délits. Et aucun adulte ne peut plus invoquer le consentement pour des enfants de moins de 15 ans. Il y a une prescription glissante, ça veut dire aussi que s'il y a des nouvelles victimes, même si on n'est plus dans les délais de prescription, on peut profiter des délais de prescription des nouvelles victimes. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau aussi dans cette loi. Vous, pour l'inceste, voilà, c'est ce que j'ai dit, l'âge il est élevé à 18 ans, et pour l'inceste, ce que vient de définir la loi aussi, c'est des nouvelles personnes, notamment les beaux-parents et des personnes en dehors du lien biologique de la famille. Il y a les oncles et tantes et les conjoints des oncles et tantes, les frères et sœurs, et pour la première fois, il y a le mot inceste qui rentre dans la loi. Donc cette loi, elle vient vraiment redéfinir le consentement, qui est quelque chose voilà, dont on parle de plus en plus, et réprimer les violences sexuelles faites aux enfants. Là, on en a un peu parlé. Donc voilà, cette loi, pour moi, elle est importante. Bien sûr, elle s'applique plutôt hors numérique, mais on pourrait y réfléchir dans le numérique, et ça vient poser des nouveaux âges pour les mineurs, et on voit la nouvelle philosophie du droit de protéger aussi les mineurs contre les violences sexuelles. Mineurs, finalement, si qu'est-ce que c'est? Est-ce que les jeunes majeurs sont toujours un peu des mineurs? Et qu'est-ce qui se passe pour la tranche 18-21? Ça, c'est des enjeux juridiques importants et des zones un peu floues. Ce qu'on sait, c'est que quand même, voilà, la responsabilité pénale, elle est pleine à partir de 18 ans. Ça veut dire qu'avant 18 ans, on le verra, mais on a des peines qui sont applicables au droit pénal des mineurs. Néanmoins, les enfants, enfin les jeunes de 18-21 ans, ont quand même des vulnérabilités spécifiques. Ils ont encore un accompagnement social à eux, il y a encore peut-être des questions de prostitution forcée, des contrats jeunes majeurs, des aides au logement, des soutiens financiers particuliers. La protection pénale, elle existe encore, mais que pour les personnes ayant autorité. Donc ça veut dire que quand on est jeune, on peut aussi être particulièrement protégé contre les infractions sexuelles dans le cadre de personnes qui auraient autorité sur nous. On voit qu'il y a quand même différentes politiques publiques jeunesse, voilà, jusqu'à 25 ans, notamment pour l'emploi et l'insertion. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les politiques publiques vont quand même dans la reconnaissance un peu plus loin que 18 ans pour ce que c'est l'enfance ou la jeunesse. Là, on va un peu parler de la responsabilité pénale des mineurs et notamment comment ils peuvent être responsables pénalement, notamment sur les infractions liées au numérique. Les enfants en France, on a un système pénal qui est particulier où en fait il n'y a pas d'âge à partir duquel les enfants peuvent être responsables pénalement. En Espagne ou dans d'autres pays, par exemple en Espagne, les enfants ne peuvent jamais être responsables avant 14 ans. En France, ils peuvent être responsables pénalement à partir de n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge. Au début, ça a été 7 ans. Aujourd'hui, ce que dit le droit pénal, c'est à partir du moment où ils ont du discernement. De façon jurisprudentielle, on voit que le discernement est plutôt autour de 7-8 ans, mais le droit pénal ne donne aucun âge, donc à partir du moment où un enfant a des capacités de discernement selon ce que dit le juge des enfants, il peut être responsable pénalement. Par contre, la peine va être déterminée en fonction de son âge et de son niveau de maturité, de compréhension, etc. D'un point de vue pénal, c'est lui qui est responsable, ça veut dire que la peine, elle peut être appliquée que personnellement. Alors que d'un point de vue civil, d'autres personnes peuvent être responsables de la réparation, notamment des dommages-intérêts. C'est le cas des parents ou de notre employeur ou de nos ayants droit qui sont responsables civilement de nous, alors que pénalement, personne n'est responsable des peines, chacun est personnellement responsable de sa peine. Il y a des types de réponses pénales qui sont appliquées selon les âges. Donc en dessous de 10 ans, il peut n'y avoir que des mesures éducatives. Souvent, ça représente un placement. À partir de 10 ans, il peut y avoir plus un volet répressif, c'est des sanctions éducatives qui peuvent être prononcées, comme l'interdiction de voir des personnes, la confiscation de biens, l'interdiction d'aller dans certains endroits. Et à partir de 13 ans en France, on a des peines d'emprisonnement. Ce que dit le Code de justice pénale des mineurs, mais aussi l'ordonnance 45, c'est que l'éducatif prime toujours sur le répressif. Donc on doit toujours chercher une réponse éducative avant d'arriver sur le répressif. Les peines de prison, elles sont divisées par deux par rapport à un adulte et la peine d'amende est de maximum 7 500 euros. Les enfants bénéficient du coup de lieux de privation de liberté qui sont seulement pour les mineurs, comme les centres éducatifs fermés, centres éducatifs fermés renforcés, établissements pénitentiaires pour mineurs ou quartiers mineurs en prison majeure. Ils ont des tribunaux qui sont des tribunaux spécialisés pour les enfants aussi. Des fois, je vais un peu vite, j'aimerais vous transmettre beaucoup de notions, donc à la fin, en tout cas, on va prévoir un temps d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions, où je pourrai revenir sur des choses si jamais. Par rapport au numérique, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une majorité numérique? Il y a une loi du coup qui est importante, c'est le règlement général de la protection des données, donc ça c'est un texte un peu fondateur sur l'organisation de la protection des données. Ce que dit ce texte, c'est qu'il y a une majorité numérique à 15 ans. En dessous de 15 ans, un enfant, normalement, doit avoir l'autorisation des parents pour s'inscrire sur un réseau social ou aller en ligne. À partir de 15 ans, c'est lui qui consent seul à la création d'un compte et notamment au traitement de ses données. Il y avait une autre loi que je n'ai pas mise, c'est la loi de la confiance en l'économie numérique aussi de 2004, qui est une loi importante, qui vient renforcer l'obligation de signalement et de retrait des données en ligne. Pour le retrait des données, ce que dit cette loi, c'est qu'en fait, on ne retire jamais réellement une photo, par exemple, contre laquelle on porte plainte ou un contenu qui a été publié, qui a été signalé. Par contre, on le met très loin et il est de moins en moins accessible dans ce qu'on peut trouver sur Google, par exemple. Donc, en fait, les choses disparaissent quand même jamais totalement. Et c'est le cas, notamment, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Van Hanover contre Allemagne, où la personne demandait le retrait du coup de photos qui portaient atteinte à son droit à l'image. Et les photos n'ont jamais été retirées, elles ont été enfouies en fait au milieu d'Internet. Donc ça, c'est une donnée qui peut être importante à expliquer aux jeunes. Au niveau européen, ce que dit du coup le RGPD, c'est que c'est les États qui fixent l'âge à partir duquel les enfants ont une majorité numérique. Il y a d'autres pays où c'est plus bas, notamment l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et la République tchèque. Bah, ce qu'on peut se demander quand même, c'est la responsabilité des plateformes numériques, comment elles vérifient cette tâche. Ce qu'on leur demande, c'est de tout mettre en place pour vérifier du coup le consentement des enfants et l'âge des personnes qui créent des contenus. Si elles ne le font pas, bah, y a la CNIL, qui est la Commission nationale de l'information et des libertés, qui peut prévoir des sanctions. Finalement, ces sanctions, c'est des sanctions qui sont civiles, ça va être des peines d'amende administrative ou ça va être des rappels à l'ordre ou à la loi. Donc la loi RGPD, elle dit que le responsable du traitement, c'est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement, avec d'autres, détermine les finalités et les moyens de traitement. Donc ça, c'est les personnes qui peuvent être responsables et contre lesquelles la CNIL peut prévoir des sanctions, potentiellement. Finalement, le site hébergeur, c'est compliqué de lui trouver une responsabilité. Il est responsable plutôt en tant que sous-traiteur, mais il pourrait potentiellement voir sa responsabilité engagée s'il manque de réactivité, notamment en cas de notification d'un contenu qui est litigieux. Donc lui, on va lui demander de retirer rapidement un contenu s'il y a un signalement. Mais aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir débat. On a vu récemment, enfin aux États-Unis, il y a des sites qui ont été contre lesquels il y a eu vraiment des plaintes et des sanctions qui n'avaient pas retiré des contenus qui avaient été signalés, notamment qui mettaient en scène des violences faites contre aux enfants. Les parents, comment ils sont responsables dans tout ça? Ben, c'est eux qui ont l'autorité parentale, donc leur responsabilité juridique potentiellement peut être engagée pour l'inscription, mais on voit quand même que c'est rarement le cas. Le mineur, lui, on voit qu'il n'est pas juridiquement responsable du consentement de traitement de ses données avant l'âge prévu. C'est ses parents qui sont responsables de mettre en place, du coup, ce consentement ou de vérifier l'âge d'inscription des enfants. Les mineurs, de quoi ils peuvent être auteurs en ligne? On voit qu'il y a différentes infractions qui sont quand même propres au numérique, qui sont croisement de ces infractions sexuelles et du numérique. Ça peut être la détention d'images, la diffusion d'images sexuelles, le chantage sexuel, le cyberharcèlement, le sextorking, enfin le fait l'extorsion de photos sexuelles, le grooming. Donc ça va être par exemple rentrer en contact avec quelqu'un de plus jeune dans le but du coup d'avoir des relations intimes avec lui. Et la pornographie qui met en place en scène des mineurs, même si les deux personnes du coup qui filment ou qui sont sur les images sont des mineurs, la responsabilité peut être engagée. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il rappelle quand même qu'il y a une égalité devant la loi. Ça veut dire que la loi, qu'on soit adulte ou enfant, elle est la même pour tout le monde. D'un point de vue de protecteur, mais d'un point de vue de responsabilité aussi, les enfants sont responsables, mais ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des peines qui sont différentes selon leur âge, leur maturité ou leur discernement. par rapport aux mineurs, quand ils sont victimes, comment ils peuvent porter plainte. Et ça, c'est une vraie question, finalement. Le droit pénal, le plus dur, c'est de porter plainte et d'avoir les preuves pour le faire. Normalement, les enfants ne peuvent pas porter plainte parce qu'ils n'ont pas la capacité juridique de signer le récépissé de plainte. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une obligation de signaler les violences faites aux enfants. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que les policiers sont dans l'obligation, même s'ils ne font pas la plainte, de signaler des violences faites aux enfants. Donc voilà, c'est un peu un artifice juridique qui se passe quand les enfants portent plainte. Ils ne peuvent pas vraiment le faire, mais on est obligé de signaler les violences qu'ils vivent. Il y a un article 15 du Code de procédure pénale qui interdit aux policiers et gendarmes de refuser une plainte. Et aujourd'hui, on ne peut plus déposer de main courante. Avant, quand manifestement, ce n'était pas une infraction pénale, il pourrait y avoir une requalification en main courante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Toutes les plaintes sont transmises au procureur de la République qui va définir les faits et il a l'opportunité des poursuites. En droit pénal, ce qu'on voit, c'est que la preuve, elle est libre. Ça veut dire que tous les moyens de preuve peuvent être utilisés, notamment des moyens déloyaux. Vous avez une jurisprudence de l'affaire Bettencourt en 2012. C'était des enregistrements clandestins qui ont été reçus comme preuve légitime. Ça veut dire que pour prouver, on peut filmer de façon déloyale quelqu'un, on peut l'enregistrer. C'est des mécanismes du coup, qui sont déloyaux, voire illicites, mais qui sont acceptés du point de vue de la preuve en droit pénal. Les juges, par contre, sont toujours souverains dans l'interprétation des preuves. Ça va être un faisceau d'indices, mais la preuve peut être recevable. Quand on est une personne privée, les personnes publiques doivent toujours respecter du coup, un formalisme de la preuve et ne pas utiliser de moyens déloyaux, notamment dans le cadre de l'enquête. Là, il y a un arrêt qui me paraît important à définir sur le consentement des enfants. C'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Bulgarie, qui est ancien, 2003, mais qui, pour moi, définit vraiment ce que c'est le consentement des violences sexuelles faites aux enfants. Donc, ce qui se passait dans cet arrêt, c'était que c'était plusieurs hommes, du coup, de l'entourage d'une petite fille en Bulgarie. Il me semble que la petite fille était vraiment jeune, elle avait 12 ans. Et les hommes lui ont imposé un rapport sexuel et l'ont violée. Et cette petite fille a voulu porter plainte, mais elle n'a pas pu le faire en Bulgarie parce que la loi demandait qu'elle ait manifesté qu'elle n'était pas consentante. Et à partir de cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il fallait arrêter de demander aux victimes d'exprimer leur consentement parce qu'il y avait différents éléments qui rendaient cela impossible, notamment d'un point de vue psychique, que les victimes pouvaient être totalement sidérées et qu'il fallait arrêter de faire reposer le consentement sur les personnes victimes en termes de oui, non, mais plutôt voir les comportements de l'auteur. Et dans une relation aussi asymétrique, tous les États européens devaient mettre en place des choses qui sanctionnent universellement le viol et les violences sexuelles faites aux enfants. Donc c'est un arrêt qui n'est pas si connu que ça, mais qui est vraiment important, où la Cour européenne des droits de l'homme, déjà dès 2003, demandait de revoir toutes les définitions du consentement et d'arrêter de faire peser le consentement sur l'expression des enfants ou des victimes. Bon, là j'ai mis différents arrêts, du coup il y a différents arrêts de la Cour suprême des États-Unis, c'était le cas d'une soirée alcoolisée, où la Cour suprême des États-Unis a dit qu'une personne alcoolisée, par exemple, ne pouvait pas consentir. Il y avait le cas d'un employeur aux États-Unis aussi, qui avait employé une femme qui était afro-américaine et qui avait dit que si elle ne couchait pas avec lui, il allait la virer. La femme, finalement, avait eu une relation sexuelle avec lui, avait dit que c'était un viol, et la Cour suprême des États-Unis avait dit que dans une relation très asymétrique, même si la victime disait que non, on pouvait pas invoquer qu'elle était, même si elle disait que oui, on ne pouvait pas invoquer qu'elle était consentante. Et c'est comme ça qu'on arrive en 2006 à une nouvelle loi du coup, qui vient explicitement en France définir ce que c'est le consentement. Cette loi elle se superpose à la définition classique du viol qui est que c'est tous les actes bucogénitaux de pénétration avec violence, menace, contrainte, surprise. Mais aujourd'hui, on vient définir le consentement. On dit qu'il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Et c'est ce que vient poser du coup, cette loi de 2026. Que le fait que la victime du coup soit silencieuse, on ne peut plus en déduire qu'elle soit consentante. Je passe rapidement là-dessus. Et ensuite, je voulais vous parler d'un point qui me paraît important, notamment le cas de la prostitution des mineurs, le trafic sexuel sur les plateformes numériques. Mon mémoire de sexologie, moi, je l'ai fait sur la prostitution du coup des mineurs en ligne et la traite des mineurs. Et j'avais interrogé 50 jeunes filles, jeunes majeures et mineures, sur la plateforme OnlyFans. Donc c'est une plateforme en ligne où les personnes peuvent vendre du contenu qui est majoritairement à caractère sexuel. Donc ce qu'on voit du coup sur les plateformes numériques, c'est qu'il y a des nouvelles formes du coup d'explosion de façon de vendre des contenus sexuels. Il y a une désintermédiation, ça veut dire qu'il y a du proxénétisme qui est finalement plus difficile à détecter, du recrutement, de la prise de contact et des paiements dématérialisés. Moi, ce que j'avais vu dans mon étude, c'est que la plupart des femmes ou filles qui étaient sur cette plateforme avaient toujours un petit ami qui avait des gains en fait dans leur activité. Que même les filles qui avaient l'air totalement indépendantes de cette pratique disaient qu'elles donnaient un revenu à un conjoint ou à un petit ami, et que c'était souvent ce petit ami qui leur demandait de rester sur la plateforme ou qui les avait incités à s'inscrire sur la plateforme. Donc dans les 50 personnes que j'avais interrogées, il y en avait, je crois, seulement 3 qui avaient un revenu totalement indépendant. Donc le cadre légal dit que maintenant un mineur est toujours considéré comme victime, même s'il dit consentir, que, on va le voir après, mais il y a la loi sur l'autorité parentale qui dit que dans une personne en situation de prostitution mineure est automatiquement victime et qu'on est obligé de signaler. On peut se demander quel est le devoir des plateformes d'obligation de signalement, et c'est là pour moi qu'il y a la loi dans la confiance en l'économie numérique qui vient dire quand même qu'il y a une obligation des plateformes dans le retrait et le signalement des violences ou contenus violents en ligne. Les publics qui peuvent être particulièrement vulnérables, il y a les jeunes de protection de l'enfance, on le voit quand même qu'ils sont particulièrement touchés par les questions d'exploitation sexuelle, les mineurs en rupture familiale, ou les jeunes issus de minorités, mineurs isolés, etc., qui sont particulièrement vulnérabilisés dans ces questions d'exploitation. Donc ça, c'est la loi du coup du 4 mars 2022 relative à l'autorité parentale qui dit que la prostitution des personnes mineures, donc qui ont moins de 18 ans, est interdite en France. Que tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est automatiquement réputé en danger et qui relève de la protection du juge des enfants. Finalement, par rapport à toutes ces questions, qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui les enjeux contemporains et les dilemmes que peuvent rencontrer les professionnels ? Donc il va y avoir une tension pour moi entre la protection et l'autonomie des mineurs. Finalement, le droit, il cherche à protéger. Les pratiques adolescentes, on peut dire qu'elles cherchent des fois à expérimenter. Et comment rendre tout cela conciliable ? Il y a des usages flous, du coup, des relations virtuelles, l'identité numérique, qui est une exploration sexuelle dans des lieux qui sont nouveaux et totalement virtualisés, où les relations entre identités sont plus floues. Qu'est-ce que ça peut être les défis, du coup, pour les familles, les éducateurs, les soignants, toutes les personnes, finalement, qui accompagnent des enfants ? Ça va être quand il faut intervenir, quand il faut signaler, comment on peut informer les enfants sans les infantiliser et articuler toutes ces questions de prévention, repérage et les obligations de signalement des professionnels. Il y a notamment l'article 434 et 40 du Code de procédure pénale qui rappelle que les personnes, du coup, les autorités constituées, donc les fonctionnaires et plus largement autorités constituées, doivent signaler du coup, les délits et les crimes. Et il y a un autre article, c'est 434, qui est moins connu du code pénal, qui dit que quiconque est au courant de violences, de mauvais traitements, maltraitances faites à des enfants ou personnes vulnérables est obligé de signaler. Donc on n'est plus dans le rôle d'un professionnel, mais finalement quiconque a des obligations de signalement quand on est au courant de mauvais traitements faits à des personnes vulnérables. On peut dire qu'il y a des lacunes juridiques actuelles, finalement, comme l'intelligence artificielle, tout ce qui est deepfake, enfin le fait de créer des faux visages sur des personnes, de sexualiser des personnes. Les infractions sans contact physique, comment on peut les sanctionner, tout ce qui est exhibition, corruption de mineurs en ligne. Et la multiplication de plein d'espaces qui sont chiffrés, comme WhatsApp, Signal, où c'est de plus en plus difficile d'intervenir. Je suis allée un peu vite, mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être ? Comment on peut proposer une lecture qui est plus dynamique du droit, du coup protéger sans moraliser, accompagner sans pénaliser, et comment le numérique a transformé les sexualités adolescentes, et comment le droit peut rester guidé par un principe de protéger les mineurs et leur vulnérabilité spécifique. Je vous ai mis différentes ressources. Je pense qu'après on peut vous partager le PowerPoint, mais voilà si ça vous intéresse, différents services, du coup voilà les services police-gendarmerie, qu'on peut, si jamais on est confronté à des violences faites aux enfants, Allo Enfance en danger, les violences 39-19 pour les violences faites aux femmes, le numéro du coup France Victime, des différents numéros d'écoute de la Croix-Rouge, un numéro pour les victimes de viols et d'agressions sexuelles, l'Association de solidarité femmes, le réseau France Victimes, que vous devez sûrement connaître, le CIDFF, l'UNAF, l'UDAF, l'URAF. Arrêtons les violences gouffres, l'application Sorority. Les différentes recommandations de la HAS, des fois, elles sont pas mal pour s'interroger sur tout ce qui est vie affective et sexuelle des enfants. Le numéro 119, du coup, pour les violences du coup, faites aux enfants. Le 3114 pour la prévention du suicide. Et ensuite, différents, il y a un groupe, c'est à Toulouse, mais c'est Avocats des jeunes à Toulouse, c'est des avocats du coup gratuits, spécialisés dans les droits des mineurs qu'on peut contacter gratuitement. Le CDAD, du coup, pour des informations juridiques gratuites avec des avocats aussi. Vous avez la CRIP aussi qui peut vous permettre, du coup, c'est une ligne d'écoute gratuite d'orientation des professionnels pour tout ce qui est, du coup, les informations préoccupantes. Après, je vous ai, pour tout ce qui est travail du sexe ou prostitution forcée, il y a l'Amicale du Nil, le Mouvement du Nil, le STRAS ou Griselidis qui peut accompagner les victimes ou les travailleuses du sexe majeures. Il y a Olympe de Gouges ou la PIAF aussi, mais c'est plutôt à région toulousaine, tout ça, mais c'est des hébergements psychologues pour les victimes de violences conjugales ou sexuelles. J'ai mis la Maison des adolescents aussi, qui a un ensemble de professionnels spécialisés pour accompagner les enfants et les jeunes majeurs. Et voilà, pour les personnes étrangères, il y a la CIMAD, la DE et Medipass. Pour l'accompagnement psychologique, il y a aussi les CMPP. Et j'ai mis un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes LGBT, qui est l'association Arc-en-Ciel. Et je suis allée un peu vite. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses que je voulais vous transmettre. Mais du coup, je suis arrivée au bout de mon PowerPoint, ce qui permet qu'on ait plus d'échanges. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on échange.
Et déjà, on peut vous applaudir. Katia Basile, merci beaucoup pour cette présentation.